Salutations distinguées à toutes et tous en ce lundi 16 septembre qui sera pour nous la date d'ouverture de la toute nouvelle saison de Jazzitude, la 7e pour être tout à fait précis. Rendez-vous compte, 7 ans déjà que cette émission sévit sur les ondes de Radio G. N'est-ce pas là l'âge de raison ? Je n'en sais trop rien au vu et à l'écoute des musiques que je vous propose d'écouter ce soir et durant toute l'année à venir. Musique encore une fois pleinement de leur temps qui exprime et prolonge la complexité de notre époque et les différents courants qui la traversent. Musique bâtarde, fortement inscrite dans l'histoire du jazz, mais qui n'hésite pas à la bousculer, empruntant pour cela sans vergogne de droite et de gauche à toutes les sources d'inspiration possibles. Cette année, vous pourrez noter si une montre vous tombe sous le nez que le créneau horaire s'est légèrement décalé d'une heure, de 21h à 22h, mais cela ne changera en rien, quoi que ce soit du contenu. Nouvelle rentrée donc, nouvelle grille pour Radio G, je vous invite à découvrir le nouveau site de la station sur lequel vous trouverez entre autres informations un lien vers le site dédié à cette émission. Je vous rappelle toutes ces adresses indispensables à la survie en milieu hostile. Pour la fréquence radiophonique, rendez-vous sur les 101.5 FM Radio G pour Angers et ses environs, mais également sur radio-g.fr en direct, online and all over the world. Le tout bien évidemment réécoutable sur jazzitude.fr d'ici quelques jours. Il est 21h sonnante, nous sommes lundi, saison 7, épisode 1. Ce soir, c'est Jazzitude. Et c'est tout de suite. Rappelons cette règle qui n'en est pas vraiment une, d'ailleurs, disons plutôt une coutume que j'aime à respecter à chaque rentrée, celle du morceau de lancement de saison. Oui, le morceau de lancement de saison, celui qui ouvrira l'année et que je sélectionne toujours particulièrement, car il est pour moi la bouteille de champagne que l'on brise sur la coque du navire lorsqu'on porte ce dernier sur les fonds baptismaux maritimes. Ce morceau doit être à la fois une musique de haute qualité sonore, il va de soi, intrinsèquement forte, mais également pour avec lui toute une symbolique. Il doit en effet être puissamment représentatif de ce qu'est le jazz pour moi, c'est-à-dire une musique bigger than life qui stimule et élève au-dessus des turpitudes de ce bas monde. Oh oui, je vous entends pouffer derrière vos postes, mais figurez-vous que dans mon romantisme naïf, les vertus de cette musique m'ont bien souvent sauvé la mise dans les moments difficiles que chacun traverse inévitablement un jour. Poussé par le souffle de liberté qui gonfle ses voiles en permanence, le jazz est et reste un territoire fertile et un horizon inatteignable et toujours renouvelé. Bref, je vais me mettre à chialer aussi pour écraser ma larme tranquillement. Je vous propose donc comme titre Alignment par le David S. Ware Quartet tiré du disque Wisdom of Uncertainty avec Matthew Sheep au piano, William Parker à la basse et Suzy Ibarra à la batterie. David S. Ware, énorme saxophoniste ténor disparu il y a un an ou deux, a porté très haut l'incandescence de la free music afro-américaine en repoussant les limites d'un monde qui, à la suite de Coltrane, mêle l'investissement physique sonore à la quête de la plus haute spiritualité. Quand le corps incarne l'âme, body and soul, autre définition du jazz. Évidemment, cette soirée de reprise, tout ne se passe pas comme prévu, il va de soi. C'est même la moindre des choses. Il faut que je trouve la raison de ce petit contretemps. Je pense que je l'ai trouvé. Et je vous laisse donc en compagnie de David S. Ware. Oh, my God.
Ha ha ha!
Et nous venons d'écouter David Eswer, vous en êtes encore tout émoustillé, un morceau issu d'un disque intitulé Wisdom of Uncertainty, comme je vous le disais tout à l'heure, signé chez Home Fidelity, en 1996. Passons à présent à une des œuvres majeures de ces dernières années, le Tower de Marc Ducré, qui a sorti chez le toujours indispensable label Ailey Records le tant attendu volume 3 de sa tétralogie. Volume 3 qui, rappelons-le, arrive après le volume 4, qui était une glose du seul Ducré à la guitare des partitions précédentes. Le volume 3 est donc un sextet au casting une nouvelle fois irréprochable, j'insiste sur ce fait, le choix des musiciens par Ducré est en tout point impeccable. Je les cite tous, impossible de faire autrement. Antonin Rayon au piano, Sylvain Lemaître aux percussions, Mathias Mahler, Fidèle Fourniron et Alexis Persigan au trombone. Nous découvrons une nouvelle version des Real Sing qui constitue le titre emblématique de ces quatre disques. Après les deux premiers volets, danse, violon, ceux en compagnie de Trandberg, Mahler, Gastard, Brune et aussi Berne, Pifarelli et Reigny, qui étaient d'une forme débridée et libertaire où les cellules écrites servaient de repères et jalons entourés d'improvisations, ce volume 3 est finalement le plus lisible, apaisé dans son rapport à l'architecture profonde du propos et rappelle l'écriture limpide et efficace du travail de Ducré sur le sens de la marche. Pour autant, on retrouve ici les mêmes résonances, les mêmes reprises, prolongements et réinterprétations du matériau de départ, ce qui est l'essence du jazz, ici puisé dans un ailleurs, la littérature, celle de Nabokov. Ce nouveau travail, plus limpide et organisé, nous permet, semble-t-il, de saisir toutes les subtilités des compositions de Ducré, qui ne sont ici que les reflets polissés, les versos acceptables des sonorités punk des volumes précédents. À moins que ce ne soit l'inverse. Une tétralogie qui se ferme mais ne se ferme pas sur elle-même. Les approches, les échos sont encore nombreux à saisir qui dépassent sans nul doute tout ce que les musiciens ont cru y mettre. Encore un grand disque, encore une raison de s'enthousiasmer et encore une raison de féliciter hautement le travail fourni par Ailey Records d'avoir donné un écrin à ces disques. On en redemande bien évidemment et c'est parti avec le sextet de Marc Ducré.
Thank you.
Marc Ducré, Tower volume 3, paru chez Eiler Records en 2013, juste avant le début de l'été. Scientifiquement, le choc, ou plutôt la collision entre deux étoiles, doit certainement avoir un nom particulier et le phénomène en lui-même dégager plein de substances chimiques intéressantes à analyser, mais pour nous, Pékins de base, qui contemplons le ciel étoilé depuis ici-bas, c'est surtout l'occasion d'assister à un beau spectacle aux couleurs magnifiques de partout et au volume sonore certainement énorme si nos pauvres oreilles pouvaient le percevoir. Ce choc, cette collision, c'est exactement ce qu'il s'est passé lors de la rencontre féconde de deux formations déjà pas mal efficaces en tant que telles, que sont celles de La Pieuvre, dirigée par Olivier Benoît, actuel directeur de l'ONG, qui à l'heure actuelle doit être en pleine période de recrutement, on a hâte, et le Circum Grand Orchestra, issu du collectif de musiciens Musix, le tout implanté dans le nord de la France. Les deux ensembles se sont donc fondus en un pour produire une musique dont la masse sonore n'a d'égal que l'originalité du propos. Une musique principalement axée sur la trance, la répétition martelée de rythmiques lourdes qui semblerait monolithique si ce n'était la présence de perpétuels décalages et subtiles distorsions de sens qui stimulent constamment l'oreille. Cette dernière portant sa attention tantôt sur la masse, tantôt s'évadant dans les lézardes de la composition. L'instrumentation assez cuivrée vient donner du scintillement à l'ensemble et le tout offre quelque chose de rarement entendu en termes d'énergie. Le disque, le double disque, devrais-je dire, est constitué de deux suites et se reçoit en toute simplicité comme une baffe en pleine tronche avec bonheur et l'envie de tendre l'autre joue. Je vous propose d'écouter la piste 7 du disque 1 intitulée Sanidine et je vous conseille toutefois d'éloigner les enfants du poste ou alors de danser avec eux. Le titre de l'album s'appelle Feldspat, c'est La Pieuvre et Circum Grand Orchestra. Thank you. Le disque Feldspat, signé La Pieuvre et Circum Grand Orchestra, un disque paru chez Circumdisc en 2013. Et revoici, pour le plus grand plaisir de tous, un nouveau disque d'Alban Darsh, rien moins que le troisième depuis 10 mois après Frelon Rouge et Queen Bishop. Ce n'est décidément pas la crise pour tout le monde. Que dire alors de ce nouvel opus? Sans surprise, c'est encore très bien. On finirait presque par se lasser. Voici donc l'Orphi Cube, plus gros que le cube, trio de Darsh. Un cube au cube, puisqu'ils sont 9, moitié moins que le gros cube qui peut compter jusqu'à 18 musiciens. Tout cela est très mathématique, mais c'est avant tout la musique qui compte. Ici, aux traditionnels musiciens proches d'Alban, on peut ajouter de nouveaux arrivants issus du monde classique que sont, pour le violon, Marie-Violaine Cadoré et le piano Nathalie Darsh, qui apportent au son d'ensemble une onctuosité toute classique. Il faut ajouter également l'arrivée de Didier Itursari à l'accordéon, qui a un son aussi large que ses bras peuvent ouvrir les soufflets de son instrument. Le répertoire se fait ainsi moins rock que n'a pu l'être par exemple Paul Armoud. Le répertoire, qu'en pense-t-on? C'est du grand cinéma, grand écran, figurez-vous. Des narrations qui se développent amplement comme des paysages, déployant leur géographie le long de pièces pas forcément longues, mais qui recèlent tant de couleurs, de timbres, de rythmiques, qu'on se retrouve embarqué pour le long cours. Du très bel ouvrage, sobre et parfaitement maîtrisé, avec un savant dosage entre arrangements somptueux, empruntant tant au tango d'un Piazzolla qu'aux grands compositeurs classiques. Les solistes, Donnarieri, Poches, Riffler, Darsh, entre autres, forcément inspirés par toute cette belle mécanique orchestrale, s'en donnent à cœur joie. Il reste à souligner, pour terminer ce propos, la bluffante et permanente invention mélodique d'Alban Darsh, capable de nous offrir des airs aussi originaux qu'immédiatement accessibles. J'ai sélectionné pour vous le titre TBBM, dont nous avions eu une version tout en solo soutenue dans un précédent disque de Darsh intitulé Brut au demi-sec, et qui nous arrive ici paré de très beaux atours, robes aux tissus moirés que les dames des salons du 19e siècle portaient certainement en se rendant à quelques concerts chambristes. Et puisque nous évoquons le siècle de Beethoven, vous découvrirez même un clin d'œil à l'hymne à la joie dans ce morceau que nous allons écouter. Dernier point évoqué, le disque est signé sur un tout nouveau label Pépin et Plume, longue vie à lui, je vous laisse en compagnie de l'Orphi Cube. Thank you.
Thank you.
Et le morceau que nous venons d'entendre à la suite de l'Orficube, outre les qualités exceptionnelles du saxophoniste ténor, leader de la formation pour lequel j'ai la plus grande sympathie, valait surtout pour l'auteur du thème et pianiste de cette même formation, puisqu'il s'agissait de Cedar Walton, mort voici quelques jours et qui comptait encore parmi les grands musiciens ayant connu les fastes périodes du jazz que furent les années 50 et 60 aux États-Unis d'Amérique. Rendez-vous compte, l'homme joua aux côtés de Coltrane sur Giant Steps et fut le compagnon de tout ce que le monde du jazz engendra durant ces mêmes années. Discret mais pilier incontournable de bon nombre de formations, il était indispensable de lui adresser un double clin d'œil d'adieu et d'hommage ce soir avec le titre Black sur ce disque de Joe Anderson paru chez Blue Note en 1966 intitulé Mode for Joe. Et finissons cette première émission de la saison par une nouvelle attaque en règle du gang grenoblois, le collectif La Forge, dont nous ne pouvons que saluer l'excellence des projets et qui compte en ses rangs les musiciens tels que François Rollin, Pascal Berne, Michel Mandel, entre autres, qui se réapproprient aujourd'hui les œuvres d'Eric Satie. On connaît ici le travail de François Rollin autour des réadaptations de Lini Tristano, puis du piano Stride, qui part toujours d'un grand respect pour l'original, tout en sachant suffisamment le pervertir pour en proposer une nouvelle approche qui nous le rend, je parle de l'original, encore plus intéressant. Ici donc les trois musiciens cités en sauvage, c'est un mot que j'invente, le travail d'Eric Satie, lui redonnant toute son étrangeté, son surréalisme et son sens de l'absurde que sa grande popularité lui a sans doute un peu fait perdre. Agrémenté de textes de Satie lui-même, interprété par le comédien Gilles Arbonnat, c'est une nouvelle pierre à porter à l'édifice du grand savoir-faire français qui, depuis le début du XXe siècle et après s'être approprié le jazz, est capable de nous offrir des pièces d'une grande force formelle et dans un même temps complètement délirante. Vous reconnaîtrez aisément dans les deux morceaux que nous allons à présent écouter la gymnopédie numéro 1 et la gnossienne 3. À vos oreilles. Le disque paru chez Label Forge s'appelle Satie Eric Excentrique et c'est un bonheur de bout en bout. Et c'est exactement sur ces notes, au moment où le silence se fait, que se terminera le numéro de Jazzitude de ce soir. Vous pourrez le réécouter d'ici quelques jours sur le site jazzitude.fr. Et j'ai l'honneur de passer la main pour la première fois à l'émission Intoxica, présentée par King Oliver himself d'ici quelques minutes. Je vous souhaite la plus douce des soirées et la plus sauvage des nuits. Salut à toutes et tous. Thank you.